BFM Business et Tech & Co présente « De quoi je me mêle ?» François Sorel.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur BFM Business le week-end, mais aussi sur la chaîne Tech & Co, sur la chaîne YouTube aussi de Tech & Co pour retrouver De quoi je me mêle. Bienvenue à vous qui nous regardez en vidéo ou qui nous écoutez en podcast. Je suis ravi de vous retrouver, une heure de tech comme chaque week-end. Avec tout à l'heure, tiens, puisqu'on se rapproche des fêtes de fin d'année d'un grand événement sportif, comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022? Voilà, quelles sont les questions qu'il faut se poser? 4K, 8K, voilà, quelles sont les dernières nouveautés? Quel est l'OS qu'il faut avoir sur sa télé aussi pour avoir toutes les fonctionnalités connectées? On en parlera tout à l'heure avec Lionel Costa, qui est le responsable du développement du Labo Fnac. Autant vous dire qu'au Labo Fnac, ils en testent quelques-unes des télés, donc on aura sans doute les réponses à nos questions. Hashtag DQGMM pour nous suivre. Merci d'être là et bienvenue, c'est parti. Le club de la presse IT pour commencer avec cette semaine, Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour François.
Vous le savez, le chroniqueur Star Tech de BFM Business, qu'on peut retrouver aussi sur RMC avec Estelle Denis.
C'est de mieux en mieux chaque semaine la présentation, ouais. Je trouve.
Je sais pas, j'essaie
à
de...
À Noël, je sais pas ce que ça va être, mais...
Le patron du groupe.
Voilà, exactement. Non, mais je prends du galon chaque semaine, c'est pas mal.
Bon, cela dit, je ne manque à moitié.
T'es très gentil avec moi.
Et en face de toi, ton principal interlocuteur de la tech,
Raphaël
Grabli, rédacteur en chef
de
l'univers Tech & Co, bien évidemment. Merci d'être là, Raphaël. Un plaisir que de vous retrouver pour commenter l'actu tech de cette semaine. On va prendre une demi-heure pour revenir sur Apple, qui, voilà, selon certaines rumeurs, pourrait réfléchir à un iPad pliant. Et oui, étonnant, on va en parler dans un instant. On évoquera aussi le gros gadin de l'HoloLens de Microsoft auprès de l'armée américaine. Mais pour débuter, c'est Netflix. Mmh. Netflix qui fait vraiment l'actu cette semaine avec toute une petite ribambelle de news qui nous paraissait intéressant de décrypter. Anthony, commençons peut-être par l'une des plus importantes et l'une des plus récentes. C'est la santé financière de Netflix et on va dire le nombre d'abonnés. On sait que l'année 2022 avait très très mal commencé pour
c'est
Netflix.
Ça, c'est un peu tangent.
Visiblement, elle se termine beaucoup mieux.
Ben oui, c'est ça, c'est un twist, hein, comme on dit dans les épisodes, dans les séries Netflix, c'est ça. C'était un rebondissement un peu inattendu parce qu'effectivement, on était parti sur une année un peu désastreuse. Alors, ils avaient perdu des abonnés, vous vous souvenez, c'était ça le truc. Il n'y avait pas beaucoup d'abonnés en moins, mais quand on parle de Netflix, c'est une entreprise qui a connu une croissance telle ces dernières années que ce coup d'arrêt, là, tout à coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était la première fois de leur histoire. Et là, alors ils ont publié leurs résultats financiers et c'est vrai que ça a été plutôt rassurant puisqu'ils gagnent 2,5 millions d'abonnés, ce qui est vraiment pas mal, et que les perspectives pour la suite sont plutôt positives aussi. Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord parce que, en termes de contenu, là, ce trimestre, il a été plutôt costaud. Si vous regardez les nouveautés sur Netflix, bon, alors le gros succès, ça a été la saison 4 de Stranger Things, là, qui a battu tous les records, qui est excellente d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, mais 1 milliard d'heures de visionnage.
Tu la conseilles?
Ah oui, non, mais Stranger Things, je conseille à fond. Et c'est une très bonne saison avec des morceaux de bravoure, enfin des scènes absolument
c'est
incroyables.
C'est bizarre parce que, alors, petit aparté, j'ai envie de regarder Stranger Things, mais il y a tellement de trucs qui arrivent par ailleurs que c'est pas ma priorité. Et peut-être une erreur, il faudrait que je m'y plonge. Tu regardes un petit peu Stranger Things?
Alors, non, moi, j'arrive pas. En fait, les séries, je les termine jamais.
mais c'est toutes les séries, c'est vrai?
Ouais, toutes les séries. J'ai du mal. J'ai terminé peut-être 3-4 séries dans ma vie, tu vois.
Ah, c'est marrant, ouais.
Et donc, je fais que des mini-séries. Ouais, genre les 6 épisodes. Ah, ouais. Donc, j'avais fait Tchernobyl. Alors, je fais les séries Star Wars. Là, je fais Les Papillons Noirs, qui est super bien. C'est trop long.
T'as le côté générationnel avec toutes les références aux années 80-90, c'est vraiment le côté Madeleine de Proust, enfin bref. En tout cas, énorme succès planétaire évidemment, et puis il y a eu plein d'autres séries, et donc c'est ce qui explique évidemment le succès de Netflix et le retour des abonnés.
Bon, donc 2 400 000 abonnés supplémentaires, ça c'est la première bonne nouvelle. Reed Hastings doit... se dire tout va bien. Bon, après, est-ce que ça va durer? C'est pas sûr, parce que parallèlement à ça, la concurrence dans le monde de la SVOD se densifie avec Paramount Plus qui va arriver en France, Universal aussi qui va lancer son offre de SVOD, et puis c'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont arriver. L'autre actu qui est un petit peu plus ancienne mais qui est très intéressante, c'est la nouvelle offre de Netflix avec 3 euros de moins, mais la pub qui arrive.
C'est ça. Alors ça, on en parlait depuis un moment, effectivement, de cette offre avec publicité. Donc on a eu tous les détails qui ont été donnés. Je les rappelle pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc c'est une offre alternative qui vient s'ajouter aux offres déjà existantes sur le marché. Et cette offre, c'est 6 euros par mois. Donc effectivement, 3 euros de moins que l'offre la moins chère aujourd'hui. Mais en contrepartie, eh bien, on va être soumis à de la publicité. Alors, ils ont donné les timings. Ils disent pour chaque heure de visionnage de série, on aura entre 4 et 5 minutes de pub qui s'intégreront avant et pendant la série. Alors, c'est le retour à la télé. Enfin, paradoxalement,
c'est vraiment ça
le truc. C'est, que,
c'est rigolo.
Hein. Bah oui, parce que Netflix, c'est un peu monté le modèle Netflix en opposition avec la télé et la publicité, alors, encore plus aux États-Unis, parce que tous ceux qui sont allés aux États-Unis savent que la pub, mais alors c'est insensé, quoi, la quantité de pub quand on regarde un programme. Donc forcément, Netflix avait un avantage concurrentiel absolument dingue. Et là, bah, on revient à de la pub. Alors, il y en aura moins qu'à la télé, mais quand même un petit peu de publicité. Et alors, ce n'est pas la seule contrepartie.
Non.
Y a plusieurs choses qui changent. Il y a d'abord la qualité vidéo. Donc, ce sera du 720p en HD.
Ça, c'est mieux.
Voilà.
Ça, c'est mieux, puisque rappelons que l'offre, on va dire, plus bas de gamme de Netflix proposait du 480p. Hein. On n'avait pas droit à la HD. Donc là,
même
l'offre à 8,99 qui était en 480p passe en 720p. Ça, c'est plutôt cool.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autre restriction, c'est que le téléchargement des programmes hors ligne ne fonctionne pas. Ça, c'était quand même pas mal quand, même, quand tu prenais le train ou quand tu étais dans un endroit où tu ne pouvais pas forcément avoir toute la connexion que tu voulais. Ça, tu n'y auras pas accès. Et puis, la dernière restriction, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y aura en fait une partie du catalogue. Alors, Netflix dit que ce sera une toute petite partie du catalogue qui sera indisponible, donc certaines séries et certains films. Donc forcément, en gros, c'est une offre en mode dégradé. Bah oui, on paye un petit peu moins cher, donc on a un petit peu moins, ce qui semble logique.
Raphaël.
Bah après, moi, j'avais retenu qu'ils avaient dit, comme il y a quelques mois, oui, mais on va mettre de la pub, mais on fera les choses intelligemment. Ce ne sera pas de la pub comme ce qu'on voit. Bon, au final, c'est de la pub. Bah, en même temps, il n'y a pas 50 000 solutions.
Bah moi, je m'attendais à ce qu'ils intègrent, tu sais, dans les séries avec de l'intelligence artificielle et tout, mais
au
non.
Au final, c'est de la pub comme à la télé, et puis c'est réglé.
Accord avec Microsoft, d'ailleurs, sur ce sujet.
Oui, pour la gestion. Mais en fait, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des abonnés. Je pense qu'en interne, ça a été un traumatisme. Ils se sont dit plus jamais ça, on ne veut plus jamais perdre d'abonnés. Et donc, ils mettent deux armes pour ne plus perdre d'abonnés, plus jamais. C'est-à-dire, un, des forfaits pas chers. Deux, ça va ensemble, on va facturer le partage de comptes. Parce que ça aussi, ils ont dit que ça allait arriver.
Ça, c'est la troisième news intéressante.
Voilà. Hein. Et ça a déjà été lancé dans certains pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, plutôt.
C'était des pays tests un peu.
Or, bah, le test a fonctionné parce qu'ils ont dit on va l'appliquer partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut utiliser Netflix à deux endroits différents, il faudra payer un petit supplément pour avoir le droit d'accoler un profil, mais avec une utilisation ailleurs.
Alors qu'on comprenne bien, parce que c'est un sujet très important. Vous êtes très nombreux à poser des questions sur ça, parce qu'on y est tous. Hein. Voilà, ça va nous arriver dessus. Hein. On paye un abonnement à 19 euros, qui est l'abonnement le plus cher avec la 4K, etc. Et 4 comptes.
Ouais.
D'accord. Auparavant, Raph, on se partageait les frais et on avait deux comptes chacun. Là, on ne pourra plus faire ça. En fait.
Exactement.
C'était interdit, mais toléré, en fait.
Voilà,
toléré, mais ce n'était pas dans le règlement.
Mais ce n'était pas interdit.
C'était une ligne grise que tu franchissais.
Je pense qu'on n'a pas été les seuls à le faire.
Bah non, 100 millions de personnes.
Mais tant qu'ils engrangeaient des abonnés à tour de bras, ils s'en fichaient. Maintenant, les abonnés, il faut aller chercher. Donc
on
resserre les vis. Et donc, effectivement, si tu veux utiliser, donc tu crées un profil que tu veux utiliser, par exemple, physiquement ailleurs avec une autre adresse IP, dans ce cas-là, tu devras payer 5 euros en plus pour utiliser un profil supplémentaire, si ce n'est que c'est limité, parce que c'est limité forcément à la télé. Sur mobile, par définition, tu bouges, donc Netflix ne peut pas vérifier
ça. En fait,
ça.
Tu pourras créer des sous-comptes, en fait, c'est ça l'idée, c'est que tu auras ton compte principal,
et après
tu pourras avoir des sous-comptes qui seront... Alors, on n'a pas encore le prix, effectivement, je crois qu'en Amérique latine, c'est autour de 3-4 euros.
Quelques euros.
Mais du coup, alors je suis d'accord avec toi, on n'a pas les réponses à toutes les questions, en fait.
Non,
mais
non.
Où est-ce que tu fixes la limite ? C'est-à-dire créer des sous-comptes, tu vas pas en créer. Parce que sinon, moi, je vais faire le Airbnb de Netflix, je vais faire de la sous-location de comptes, tu vois, je vais en créer 150 et puis je vais les sous-louer à des gens, tu vois. Enfin, c'est quoi la limite, en fait, du nombre de sous-comptes que tu peux créer ? Et puis la deuxième question à laquelle on n'a pas de réponse et qui est très importante, c'est quelle mesure de coercition Netflix veut et peut prendre pour, quand on respectera pas la règle, finalement, pour
épuiser l'utilisateur. Je pense qu'il bloquera tout simplement la diffusion.
Et puis cette règle, c'est quoi ?
Ailleurs que dans le foyer.
Mais c'est quoi cette règle ? Admettons qu'on a un compte famille, deux adultes, deux enfants, ok ? Les enfants s'en vont.
Et bah,
ils partent en vacances.
Mais c'est, bah, en fait, c'est plus un compte famille, c'est un compte foyer. C'est un compte maison.
Non, mais on est d'accord que c'est
ah bah,
c'est surréaliste, en fait. Bah,
c'est... Mais ça, c'est déjà la règle aujourd'hui. Si t'es, par exemple, si t'as un fils qui va faire ses études à l'autre bout de la France, en théorie, il n'a pas le droit d'utiliser
ton compte Netflix.
Bah ouais.
D'accord. Mais ça, on est d'accord que ça va être une décision très impopulaire, parce que là, pour l'instant, nous, on en parle, mais les gens ne sont pas au courant.
Mais finalement, moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi sur la pub. L'abonnement avec pub, alors il y a des gens qui le reçoivent plutôt bien, mais il y a aussi beaucoup de gens que ça énerve, en fait, de se dire Netflix était sans pub, maintenant ça va être avec pub. Et ce qui est vrai, c'est que si on regarde sur, mettons, 4-5
ans... Après, c'est avec pub si on souscrit l'abonnement, parce qu'il faut aussi être clair là-dessus.
Oui, mais justement...
Si vous êtes déjà abonné sur Netflix, il n'y a rien qui va se passer.
Oui,
il faut que vous souscriviez le nouvel abonnement.
Mais le problème, c'est que si on compare avec il y a 5 ans, comme Netflix a augmenté ses prix, c'est normal, ils ont fait des prix pour être déficitaires, mais pour engranger de l'abonné. Après, maintenant, il faut être rentable, donc ils ont augmenté leur prix. Mais si on compare en photo ce qu'on a aujourd'hui avec la pub et ce qu'on avait il y a 5 ans, on se retrouve quasiment avec finalement le même prix mais avec de la pub. Si on regarde la transformation à long terme, finalement on s'est transformé d'un compte à 6, alors je sais plus combien c'était le compte le moins cher quand ils sont arrivés en
c'était
France,
c'était pas 7 ou 8
ouais,
euros
mais en gros on se retrouve avec un prix qui est quasiment comparable mais qui est avec pub, donc du coup forcément c'est assez impopulaire. Et puis ce que tu disais tout à l'heure face à l'arrivée mais monumentale de 50 000 services.
Mais ça va être dur, là, franchement.
En plus, là, on voit de la pub pour Lionsgate Plus, enfin, il y a Universal Plus, il y a, enfin, y a Paramount Plus, ça va être...
Non, ça va être compliqué.
Il va y avoir une concentration, il y en a beaucoup qui vont disparaître.
Bien sûr.
Je ne pense pas que Netflix et Disney, par exemple, sont en risque. Mais c'est vrai que moi, je ne comprends pas l'idée de lancer encore des services de streaming. Ou alors, le point de rentabilité est vraiment bas, parce qu'ils ont déjà leur catalogue.
Surtout que là, on est à un moment, quand même, avec les restrictions budgétaires, l'inflation, où les gens sont plutôt à regarder comment ils vont pouvoir concentrer les services
et réduire la voilure.
Ils ont déjà 2-3 services d'abonnement, ils vont dire peut-être que je vais en prendre que 2 ou 1. Donc là, l'idée d'avoir des dizaines de services qui sortent, ça n'a pas de sens.
Ceux qui se lancent, c'est ceux qui ont un catalogue de films.
Oui, voilà.
Mais
oui.
Le problème, c'est
que tu vas pas payer un abonnement de 10 euros par mois pour Disney, ça se comprend. Mais
ce qui te pousse à t'abonner, c'est d'avoir des nouveaux contenus. Mais ils vont pas créer 50 000 séries, ça coûte bien trop cher.
Mais le paradoxe dans cette histoire-là, c'est que regardez. Et bon, typiquement, moi, je vous raconte ma vie. J'ai un compte à 19 euros premium, 4K. On est plusieurs à en profiter. C'est ce qui est un peu normal. Enfin, la famille en profite, OK ? Demain, on me dit, il n'y a plus que toi, François, qui peut en profiter, ce compte-là, 19. Mais je vais rétrograder mon abonnement. Je ne vais plus rester à 19. Je vais prendre l'abonnement qui est un peu moins cher.
Donc c'est... Oui, mais parce que c'était des gens qui ne sont pas physiquement chez toi.
Oui, mais...
Ah oui.
Ouais,
mais Netflix, ils vont gagner un abonné puisque l'autre. Enfin,
mais
ils
c'est même pas sûr parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire.
Je pense que si, parce que en fait, l'idée, c'est surtout de toucher une tranche de population qui aujourd'hui n'a pas Netflix. Et là, le but avec l'offre publicitaire notamment, c'est de dire là, pour 6 euros, vous allez pouvoir avoir une offre un petit peu dégradée, mais vous aurez quand même Netflix.
Mais d'ailleurs.
Après, pour moi, la question, c'est quand même celle de la valeur ajoutée par rapport à l'offre à 9 euros. Parce qu'en gros, tu te dis, pour 3 euros de différence, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Ça vaut vraiment le coup, parce que tu perds le téléchargement. Tu perds
la pub,
etc. Franchement,
Mais je trouve qu'ils font presque les choses un peu à l'envers, parce qu'en fait, c'est plutôt, on va vous facturer le partage de compte, mais en contrepartie, on va vous offrir un abonnement moins cher... avec de la publicité, ou alors on va vous facturer. Mais je trouve que c'est presque un peu à l'envers. Ils lancent d'abord l'abonnement de, entre guillemets, un peu de, pas de secours, mais l'abonnement secondaire, avant de facturer le partage de compte. Donc je me demande s'ils n'auraient pas dû faire l'inverse.
Ouais, genre la mauvaise nouvelle, puis la bonne nouvelle. La carotte, puis le bâton. Le bâton, puis la carotte.
Ça va être intéressant de voir comment Netflix entreprend ce virage, parce que c'est un virage qui est très sensible quand même. Il y a plein de gens qui sont abonnés à Netflix parce qu'ils savent qu'ils peuvent partager ces comptes-là. À partir du moment où on leur interdit ça et on enlève ce privilège, ils risquent d'avoir de la casse.
Mais ça va être dire intéressant de voir. En fait, la bataille est très très rude en ce moment, et là, Netflix, ils n'ont pas tellement le choix. Ils sont obligés d'innover
mais
pour essayer d'engager
des abonnés. Mais est-ce que c'est le bon moment aussi ?
Tu as aussi le fait, c'est pareil, ils l'ont dit d'un mot, mais le fait qu'ils s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo, ça c'est un point qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont obligés aussi d'opérer une diversification stratégique, parce qu'il y a aujourd'hui une telle bataille pour ce qu'on pourrait appeler le temps de cerveau disponible, parce que certains appellent le temps de cerveau disponible. ou le temps d'écran disponible en tout cas, qu'aujourd'hui, bah, t'es obligé de faire un peu tout. Ce que disait Reed Hastings, il l'a dit déjà plusieurs fois en interview, c'est mon principal concurrent aujourd'hui, c'est pas Disney+, ou les services, ou Amazon Prime, c'est Fortnite. Enfin, en gros, c'est le jeu vidéo en ligne, et c'est là-dessus qu'il faut aller combattre, et donc ils sont en train de lancer, alors ils ont déjà d'ailleurs un service de gaming, donc ils s'est lancé un petit peu discrètement, ils ont embauché des grands noms du secteur, Mike Verdoux notamment, et ils pourraient aussi, on a appris ça, hein, s'intéresser également à des services de cloud gaming, ce qui est assez étonnant vu les déboires récents de Stadia, mais pourquoi pas.
Bon, on verra bien.
Après, ils ont une légitimité en disant, nous, notre spécialité, c'est, on va dire, le divertissement en streaming. Donc,
pourquoi pas le jeu vidéo ?
Les films, donc pourquoi pas le jeu vidéo ? Et d'ailleurs, absolument, ce qu'ils disent, alors ils n'ont pas d'offre qui sera lancée, ils disaient, on regarde. Ce qu'ils disent finalement, c'est Stadia était une réussite technique,
oui, c'est ça,
mais mal commercialisée. Netflix, c'est bien commercialisé. Donc pourquoi pas d'ailleurs un rapprochement.
Et puis c'est vrai que l'avantage de Netflix par rapport à Google, c'est que ils ont un parc d'abonnés monstrueux, ils vont pouvoir leur proposer des essais gratuits au Google, au cloud gaming, etc. C'est peut-être plus compliqué pour Google qui finalement est un service immense, mais enfin voilà, peut-être moins, qui pouvait moins attraper des abonnés en quelque sorte. Donc à suivre concernant Netflix. Dans l'actualité, alors il y a plein de choses, hein. Juste un mot sur Apple qui a annoncé j'allais dire en catimini, mais vraiment, voilà, comme ça, il y a 2-3 communiqués presse qui sont passés avec de nouveaux iPads.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre ? Il y a eu un autre truc aussi.
Il y a une nouvelle Apple TV. Il y a un nouvel iPad Pro.
Voilà, c'est ça.
Le M2, donc c'est quasiment le même, mais on passe du M1 au M2. Alors, le nouvel iPad, moi, je trouve que c'est le plus intéressant.
Ouais. Enfin, le prix est moins intéressant.
Alors, le prix, il est...
Je crois qu'il prend 200 euros par rapport au précédent. Oui.
Ah, j'ai plus prendre.
En fait, il garde le précédent en gamme, qui prend lui 50 euros. Ouais, il passe de 389 à 449, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, le nouvel iPad doit être à peu près 500-600, je pense, quelque chose comme ça. Je n'ai plus le prix exact en tête. Bref, il reprend. En fait, c'est un iPad Air. C'est un nouvel iPad Air quoi, qui ressemble énormément. Mais surtout, parce que du coup, l'ancien iPad, on peut supposer qu'il est plus ou moins en sursis, il le garde. Mais c'est l'USB-C. C'est-à-dire que là, l'iPad, le premier iPad, maintenant, est en USB-C. Et pour moi, cet iPad, c'est le début de la fin du Lightning, surtout. Et notamment, on parlait de l'Apple TV. Bon, l'Apple TV, c'est juste un nouveau processeur, etc. Mais c'est bête, mais la télécommande de l'Apple TV, elle passe en USB-C aussi.
Ouais, donc, c'est un signe.
Ça y est,
non, mais tu vois, la télécommande, s'il y a un truc qui peut supporter le Lightning, c'est la télécommande de l'Apple TV. Et donc, finalement... d'ailleurs, au passage, sa télécommande, il faudra la recharger. On ne pourra plus la recharger avec le câble de l'iPhone, ce qui est quand même un peu. C'est quand même ce qu'on faisait tous.
Oui, c'est vrai.
Enfin, tous ceux qui ont une Apple TV. Mais tu vois, ça montre à quel point finalement. Bon, il n'y a plus que l'iPhone, quoi. Le Lightning, c'est terminé.
Il y a 99% de chances pour que le prochain iPhone soit.
De toute façon, ils seront obligés par l'Union européenne en 2024, donc ils vont le faire. Donc pour moi, c'est l'iPad, c'est le début de l'adieu au Lightning. Et je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que franchement, ça n'a plus aucun sens de garder du Lightning, mis à part financier, parce qu'ils prélèvent une commission sur tous les accessoires Lightning. C'est plusieurs dizaines, voire peut-être, on n'a pas le détail, mais probablement centaines de millions de dollars chaque année. Mais voilà, c'est un.
C'est intéressant.
C'est intéressant pour
et
ça.
Et puis Apple contraint, c'est rare. Hein.
C'est vraiment c'est une victoire de l'Union européenne. C'est vrai qu'on critique souvent.
Qui arrive un peu tard.
Ça arrive tard.
Ça arrive très tard.
Honnêtement, peut-être que c'était dans les plans d'Apple depuis des années et que finalement, ça a vachement rigolé.
Moi, je pense qu'ils prévoient de le faire quand même.
Je sais pas.
L'USB-C sur l'iPad, ils l'ont commencé il y a quelques années.
Mais il y avait déjà. L'Union européenne, ça fait depuis 2009 que le projet est en cours.
Mais ça s'est vraiment réactivé il y a 2 ans.
Oui, 2009, ils ont commencé à y réfléchir. C'était pour ça que
Il faut 13 ans pour statuer sur un truc.
C'est ça. T'avais un chargeur différent pour chaque marque à l'époque, donc ça avait beaucoup de sens parce que t'avais le chargeur Motorola, le chargeur Nokia, le chargeur Ericsson, etc. Là, à la limite, t'avais plus que USB-C et puis Lightning. Donc, ça a pris du temps.
Je pense que c'est sur la télé 3D parce que
ils auraient lancé le truc.
La décision a été un peu
sur les télés incurvées. Là, ils auraient commencé à statuer.
Voilà. Et je pense que la décision va arriver en 2026. À peu près, on sera parfait.
Non, c'est vrai qu'ils sont un peu à la bourre. Au moins, on s'est régulé en Europe, c'est déjà bien. On est là pour ça.
Mais quand tu vois que la tech va tellement vite, 13 ans pour prendre une décision.
C'est insensé.
Ça devrait prendre quelques mois. Ça va tellement vite. Et puis, ça me fait penser aux amendes. Bon, alors, petite parenthèse, mais toutes ces amendes que l'Union européenne impose aux géants de l'Internet américain. Alors déjà, ils ne la payent jamais. Ils font appel, ça prend en 5 ans pour avoir dans la décision de l'appel. Entre-temps, l'écosystème a totalement changé, l'univers a totalement changé, enfin bref.
C'est bien pour les journalistes tech, ça fait des feuilletons à suivre.
Ça fait des feuilletons à succès, c'est ça. Anthony, juste pour terminer avec Apple, cette petite rumeur concernant un projet d'iPad étonnant.
Ouais, un projet d'iPad pliable, pliant, je ne sais jamais comment on dit, vous dites comment.
Ah, officiellement, maintenant c'est pliable, c'est un combat perdu pliant.
Avec un écran flexible en tout cas, et qu'on pourrait plier comme les smartphones Samsung et autres. Alors, effectivement, à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, ce sont ça vient d'analystes en fait, c'est des rumeurs qui viennent d'analystes de CCS Insight, qui estiment qu'Apple, avant de se frotter à l'iPhone, pliant, pliable, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, il pourrait s'entraîner d'une certaine manière avec l'iPad, qui serait un produit moins risqué pour se lancer sur ce marché pour deux raisons. Et c'est vrai que l'argumentaire est intéressant. D'abord, parce que un iPhone, ce serait assez risqué pour Apple, qui n'a pas une galaxie de produits comme Samsung, par exemple. Donc, s'il se plante sur l'iPhone pliant, globalement, c'est un énorme échec industriel et une catastrophe industrielle, alors que Samsung, s'ils se plantent, ils ont des dizaines d'autres modèles, c'est pas très grave.
La galaxie de produits Samsung,
oui, pas mal. J'y ai pensé après l'avoir dit, mais...
Je l'ai attrapé au vol.
Ah, mais joli. Non, mais voilà. Et le deuxième point, c'est que effectivement, les smartphones à écran flexible, ça coûte très cher. Les iPhones, ça coûte très cher. Donc, un iPhone avec un écran flexible, ça coûterait très, très, très cher. Donc, les estimations, c'est autour de $2,500. Est-ce que c'est un price point auquel les gens sont prêts à se frotter? C'est pas sûr. Et donc, du coup, ce serait peut-être plus intelligent pour Apple de lancer, dans un premier temps, un iPad qui est une catégorie de produits, on va pas dire... qui ronronne un peu chaque année. Il n'y a pas d'innovation majeure. C'est des très bons produits. Et donc, ce serait
innover sur ce segment, ça pourrait être malin.
Voilà. Donc, 2024, ça pourrait
2024.
Être... Alors, c'est le,
on a,
la date.
On a une date.
Donc, il sera en USB-C.
Donc, il sera en USB-C aussi.
Non, mais moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Parce que finalement, par rapport à Samsung, ce qu'on voit... C'est clairement le succès, c'est le Galaxy Flip et pas le Fold. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veulent les gens finalement, et c'est une surprise, plutôt d'ailleurs pour les industriels, c'est du pliable pour rendre un grand écran compact et non du pliable pour déployer quelque chose. Et donc finalement, on peut se dire que en se basant sur le succès du Flip, Apple se dit, on va plutôt utiliser un écran pliable pour rendre un iPad plus compact plutôt que pour ouvrir un iPhone et le transformer en iPad. Et donc, je pense qu'ils se sont dit finalement, je ne sais pas s'ils se sont dit ça, mais en tout cas, on voit que l'intérêt du pliable pour le grand public, pour ceux qui en achètent, mais il y a quand même quelques millions qui en achètent, c'est finalement pour rendre plus compact un produit et pas pour l'étendre. Et donc, peut-être qu'avec ce constat, ils se sont dit, un iPad... classique, voire un iPad mini pliable, ça se range dans la poche.
Ouais, ça pourrait être cool.
Ça se range dans la poche.
C'est vrai.
Donc finalement, ça peut peut-être être ça l'accroche.
Absolument. Et puis effectivement ils le lancent et que c'est un succès, là pour le coup, tout le monde s'y met. Vraiment derrière tous les constructeurs. Et là, ce serait le vrai point de départ pour les écrans pliables, parce que pour l'instant, ça reste un marché de niche, mine de rien.
Mais c'est bizarre parce que moi...
Bon, après, ça dépend s'ils mettent un écran de l'autre côté, et là, ça devient un fold.
Ouais.
Moi, je suis moins optimiste que vous. Je pense qu'Apple n'est pas prêt à sortir un appareil avec un écran pliant, parce que j'ai l'impression que c'est pas au niveau technologique que Apple pourrait attendre. Quand on voit on voit pas mal de produits pliants je trouve qu'on a on n'a pas encore, enfin c'est encore un peu approximatif. Et je pense que pour Apple c'est pas encore une voie techniquement prête à 100%. Alors peut-être que d'ici 2024, ils auront résolu des problèmes que ils estiment avoir aujourd'hui, mais je sais pas, je suis un peu plus dubitatif.
Parce que ça s'est beaucoup amélioré quand même depuis les premiers modèles.
Oui, mais
Samsung.
Tu vois, on voit pas mal de PC. Alors il faut quand même saluer, c'est Asus qui a sorti le Fold, le PC Fold, etc. Mais c'est quand même très épais. Esthétiquement, c'est discutable. Moi, je trouve que ça rentre pas dans les codes de ce que pourrait faire Apple.
Ah ben c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Et je me dis, est-ce qu'Apple serait prêt à faire à casser un peu le design de ses produits, etc., pour avoir du client? Je sais pas trop.
Ce qui est sûr, c'est qu'Apple, ils prennent une techno, quand elle est mature, ultra mature.
Bien sûr.
Et deux, quand elle est très largement adoptée par ailleurs. Là, la techno, elle commence à être un peu plus mature. On est quand même à la quatrième génération chez Samsung. Mais c'est vrai que par rapport aux chiffres d'Apple, ça reste encore quelque chose d'un peu anecdotique. Et donc, j'ai un peu le même point de vue, mais tu vois, c'est comme sur les casques VR, etc. D'ailleurs, ils ont dit, le casque VR, Tim Cook a déjà dit que c'était... il n'aimait pas tellement la VR, finalement.
Non, VR, non.
Donc, le
mais
casque
réalité augmentée,
AR,
oui.
Réalité
oui,
augmentée,
oui,
on sait pareil, qu'il travaille là-dessus.
Mais pareil, enfin, moi, à ce niveau-là, j'imagine pas du tout Apple sortir un casque AR. Donc, c'est-à-dire, s'ils sortent
des lunettes.
Ce sera des belles lunettes, ouais. Des trucs comme ça. Mais je suis d'accord qu'il faut... Ils attendent qu'une techno soit très mature. Et après, honnêtement, ça fera peut-être aussi comme l'histoire du capteur d'empreinte sous l'écran. Pendant des années, on disait Apple va peut-être enfin le mettre. Finalement, Apple, ils disent non, mais attendez, on a Face ID, nous emmerdez pas avec ça, ça sert à rien, et puis on le fera jamais, c'est tout.
Dans l'actualité, Microsoft aussi. Alors bon, Microsoft qui a rencontré un gros problème avec l'armée américaine.
Ouais.
Ça arrive, hein. Il faut savoir que Microsoft a des milliers de clients, et notamment l'armée américaine, sur un produit bien précis, qui est en fait ces fameuses lunettes HoloLens, vous savez, qui nous permettent d'avoir de la réalité augmentée. Tu en parlais il y a un instant, justement. Gros contrat passé avec l'armée américaine.
Très gros contrat.
22 milliards, je crois.
22 milliards de dollars pour équiper les soldats ou une partie des forces armées américaines avec des casques HoloLens. Alors, pourquoi, à quoi ça servirait un casque HoloLens pour l'armée américaine? Ces casques donc de réalité mixte qui sont, encore une fois, assez encombrants. On parlait de ceux de Facebook, de Meta la semaine dernière. C'est un petit peu le même principe. Donc, ce sont des grosses lunettes qui permettent en surimpression d'avoir un certain nombre d'informations numériques qui viennent s'afficher, un peu comme les Google Glass à l'époque. Et là, l'idée, ce serait d'afficher des informations tactiques, tu vois, pour les soldats, ils sont sur le champ de bataille, c'est Call of Duty pour de vrai, quoi. C'est-à-dire t'as la minimap qui s'affiche dans ton champ de vision, tu peux voir les membres de ton escouade, éventuellement des ennemis. Ils ont été adaptés aussi pour avoir apparemment des systèmes de vision thermique et de vision nocturne.
Bien sûr. Donc les ennemis qui pourraient être cachés.
Exactement.
Derrière des...
Donc c'est un outil qui peut être hyper intéressant, enfin, très séduisant sur le papier, sur un côté vraiment film de science-fiction.
Et d'ailleurs tellement séduisant que l'armée a signé son contrat avec Microsoft en disant...
22 milliards
non. Voilà,
on va
vous allez équiper, alors je ne sais pas, sans doute pas tous les militaires américains, mais en tout cas
des milliers d'unités qui ont été commandées.
De combattants, en quelque sorte.
Alors, sachant que ce contrat, il se fait par tranche, c'est-à-dire que pour l'instant, on est en phase de test, et je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout, puisque le problème, c'est que sur les premiers tests, les premières expérimentations qui ont été réalisées, en gros, les soldats ont envie de vomir. Ça ne se passe pas très bien, ils ont mal à la tête, ils ont des nausées, parce que c'est des casques, ça reste des casques qui sont relativement encombrants, on t'affiche des informations dans ton champ de vision en permanence, et qu'il y a un moment, forcément, t'es pas très très bien. Et donc, au bout de quelques heures, les soldats se sentent pas bien. Le deuxième point, et c'est peut-être encore plus grave, c'est que ces casques, comme ils sont lumineux, il y a des petites loupiottes qui sont allumées, les soldats disent « Ouais, c'est bien gentil, mais on va se faire repérer par l'ennemi, quoi. » Donc, globalement,
en pleine nuit...
C'est sympa d'avoir des casques avec de la réalité mixte, mais si c'est pour se faire tuer à cause d'eux, c'est peut-être pas la peine.
C'est pas très bon.
Et donc, sur tous les tests qui ont été réalisés, là, en gros, la copie est totalement à revoir pour Microsoft. Alors, l'armée américaine ne dit pas « On abandonne », ils disent « Non, non, on va demander à Microsoft de nous présenter une version updatée, et puis on va voir ce que ça peut donner. Mais bon, pour l'instant, ça se passe pas très très bien. Moi, ça me fait penser. Il y a souvent des innovations technologiques qui sont pensées pour l'armée américaine. On pense au chien Boston Dynamics, par exemple, qui avait été financé par la DARPA au départ. Ou pareil, sur le papier, ça te paraît une idée géniale parce que tu as vu tous les films et séries de science-fiction et tu te dis « Ah ouais, un chien robot qui viendrait porter le paquetage des soldats, c'est génial. » Sauf qu'une fois que tu arrives sur le champ de bataille, le robot, il se décharge au bout d'une demi-heure et c'est bien embêté parce qu'il s'arrête en plein milieu du champ de bataille.
Il n'aime pas la boue,
il fait beaucoup trop de bruit, il se fait repérer par les ennemis. Donc, encore une fois, entre le fantasme technologique et le côté opérationnel de la chose, il y a souvent un gouffre.
Et la capacité magique d'adaptation de l'être humain. C'est ça qui est formidable, ce qui fait encore plus la beauté de la machine que nous sommes, finalement.
On se rend compte à chaque fois qu'on parle de technologie, et notamment de robotique, à quel point, effectivement, on est un chef-d'œuvre d'évolution biologique. Ouais.
Bon, Raphaël.
Si on en doute encore.
Alors, je ne sais pas si tu l'as testé, toi, HoloLens, mais tu vois, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'on puisse tenir longtemps avec ça. Enfin, c'est quand même assez encombrant. Et c'est vrai que, en plus, le champ de vision. Alors ça dépend des versions, mais le champ de vision n'est pas non plus immense, donc il y a des contraintes techniques en mouvement, etc. Je comprends que ça, il y a encore du boulot.
Puis ça bug pas mal en plus, quoi.
Enfin, puis oui, enfin, puis en c'est, plus
c'est,
si
c'est
ça bug.
Bon, c'est pas mal. Il y a des applications géniales, moi, qui m'ont bluffé, mais ça laguait quand même pas mal et tout. Enfin, tu vois que c'est un truc work in progress.
Ouais,
quoi.
C'était très work in progress.
Donc le mec qui arrive en Afghanistan avec son truc et ça lui
prend des bombes.
Disons voilà, faut pouvoir compter dessus. Faut pouvoir compter dessus. C'est quand même pas pour rien si les systèmes embarqués des F-35, etc. Ça coûte des milliards et des milliards en logiciel. C'est que les développements, on voit dans ce système, enfin, on voit ce que c'est comme type de développement. C'est pas des développements en millions d'euros.
C'est pas Windows XP, quoi.
Voilà. Mais non, mais Microsoft est capable de faire de belles choses.
Je plaisante.
Mais c'est une industrie qui est très spécifique. D'ailleurs, j'avais une anecdote assez marrante. C'est qu'ici, physiquement, pour ceux qui nous écoutent, on est en face du ministère de la Défense.
Oui.
Et il y a quelques mois, il y a 3-4 ans, j'étais dans un resto derrière et je me retrouve à une table à côté... de haut gradé et de Microsoft qui déjeunaient ensemble et qui parlaient d'HoloLens.
Mais non.
Et du coup, j'ai évidemment écouté. Donc, c'est marrant comme quoi ça tient à pas grand-chose. Et donc, ils discutaient aussi d'adapter HoloLens pour l'armée française.
C'est dingue.
Alors, bon, on n'a pas eu de news depuis. Ça fait 3-4 ans. Donc, ça a peut-être rien donné, ou alors je suis peut-être passé à côté de l'info, mais je trouvais ça marrant.
C'est peut-être l'armée américaine qui a appelé l'armée française en disant les gars, on vous déconseille d'investir pour l'instant.
C'est dingue qu'ils discutent de ça dans un restaurant.
C'est ce que j'ai trouvé incroyable.
On parle de cybersécurité, mais là, tu vois, la base de la base, c'est quand même ça.
On était dans un resto, vraiment un truc, un bistrot, quoi, le truc qui était blindé.
Tout le monde mange les uns sur les autres.
C'est ça, on était tous collés les uns. Alors moi, forcément, je vois des militaires avec des types de Microsoft, parce que Microsoft, en plus, physiquement, d'ailleurs, ils sont aussi à côté. Et je les entends parler d'HoloLens.
Ouais, c'était drôle.
Présenter leur truc, c'était génial. Donc moi j'écoutais, c'était comme quoi, tu vois, ça tient un peu de choses.
T'as pas fait d'article?
Non, j'ai pas fait d'article, j'ai pas assez d'infos. Mais bon, c'était marrant quand même, c'était rigolo.
C'est marrant. Non, mais c'est marrant de voir aussi que les technologies, souvent en fait, l'armée est assez précurseur. Les technologies sont adoptées par l'armée.
Bien sûr.
Puis par le porno, puis par le grand public.
Le GPS,
voilà,
ouais, c'est comme ça. Alors le GPS par le porno, évidemment. Je suis pas sûr, mais
le porno HoloLens, c'est.
Ouais, alors ça, je sais pas. Parmi les premières applications des Google Glass, je me souviens à l'époque, c'était t'avais toute l'industrie du porno qui s'en était emparée.
La VR
aussi, évidemment. Bien sûr. Et donc quand ça. En fait, ça arrive par l'armée, puis ça descend vers le grand public. Ça fonctionne bien en général, parce que comme tu disais, c'est des coûts de développement qui sont en milliards, donc c'est des technos qui sont complètement prêtes.
Ouais.
Quand c'est des technos grand public
qui montent vers le militaire, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Tu as raison. Merci beaucoup à tous les deux. Passionnant, comme chaque semaine. Merci Anthony, merci Raphaël. Alors bon, je sais que Raphaël a acheté une télé il n'y a pas longtemps, il ne va pas en racheter une nouvelle, mais...
Ça commence à dater.
Ça commence à dater,
6 ans.
6 ans déjà.
La durée de vie moyenne, je crois que c'est 7 ans, tu vois.
Ah, attention. Anthony, t'as pas besoin d'acheter
un nouvel appareil. Moi, c'est 3-4 ans, donc je vais encore la garder.
Tu vas un petit peu la garder. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui sont avec nous, restez là, puisque dans un instant, malgré tout, on va vous donner quelques conseils pour choisir votre nouvelle télé à l'approche des fêtes de fin d'année, du Black Friday et de la Coupe du Monde. Voilà, c'est intéressant, on en parle avec le Labo Fnac. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle avec cette question simple, les amis. Comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022 avec, je le disais, les fêtes de fin d'année, Noël, toujours un moment important pour se faire des cadeaux, le Black Friday, les promos et la Coupe du Monde de foot, plus les nouveaux services de SVOD qui arrivent en 4K. C'est peut-être le moment de se faire plaisir. Pour en parler, un spécialiste, c'est Lionel Costa qui est avec nous. Salut Lionel.
Bonjour François.
Ravi de te retrouver Lionel.
Ravi de revenir.
C'est Monsieur Labo Fnac, responsable du développement du Labo Fnac. Vous savez que voilà, on accélère avec le Labo Fnac et régulièrement Lionel vient nous parler du fonctionnement du Labo et puis surtout nous aide à bien choisir nos produits high-tech. Après les smartphones, place maintenant donc aux télés, qui est un gros morceau pour le Labo Fnac. Hein. Vous testez quasiment 100 télés par an.
Oui. Et
c'est
encore,
incroyable.
On a 100 télévisions par an testées, mais après on a des déclinaisons qui font qu'en fait on étoile encore plus de produits. Donc d'accord. Sur Fnac.com, nos magasins, sur les étiquettes en magasin en linéaire, on a plein de produits qui sont étoilés.
Bon, alors, les télés marchaient quand même assez dynamiques, hein, avec beaucoup de nouveautés qui arrivent, beaucoup de technologies aussi, au-delà de la taille d'écran, le son, enfin, il y a les OS aussi, hein, les operating systems, comme on dit, qui nous permettent de télécharger après les applis pour regarder nos séries préférées. Donc, tout ça est très important, mine de rien. Comment testez-vous les télés au Labo Fnac? Quels sont les points importants aujourd'hui qu'il faut voir dans une télé que vous regardez?
Alors, les mesures que nous réalisons au Labo Fnac, elles n'ont pas tant évolué que ça par rapport à il y a 10 ans, même un peu plus. Une télé, c'est toujours un afficheur de couleurs, de lumière, et avec une certaine fluidité. Et évidemment, avec une définition qui s'est améliorée. Donc, c'est quoi les points principaux? C'est évidemment la colorimétrie. Donc, est-ce que les couleurs rouge, vert, bleu sont bien respectées? Est-ce que j'ai un taux de contraste suffisant pour voir des détails dans les zones sombres, dans les zones lumineuses? Donc, on a tout ce qui est luminance et chrominance. Et on a aussi la vue angulaire. Donc, les outils de mesure que nous avons au labo, on peut vraiment être fier d'avoir ces outils de mesure-là parce que tout le monde n'a pas ce niveau-là et ces technologies-là. On est en collaboration avec la société Eldim, qui est une société française, qui nous a aidés avec le responsable de test écran, donc Pierre Blanc, qui fête ses 40 ans au Labo Fnac, donc qui a tout vu en technologie d'écran.
Il est passé du cathodique au QD OLED, hein, le monsieur.
Ah oui, complètement. Et il est prêt, enfin... Je veux qu'il reste, hein. Je suis contre la retraite pour cet homme-là.
Il va falloir qu'il vienne un jour dans Tekken Co.
Avec plaisir. Et donc voilà, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de vue angulaire, chose que les simples sondes ne peuvent pas faire parce qu'il faut un petit peu, il faut une espèce d'optique concave qui nous permet de voir un peu à l'image d'un Judas sur une porte. Mmh. C'est-à-dire d'avoir une vision presque à 180 degrés sur tous les axes et ça nous permet de savoir en un cliché quel est le niveau de lumière envoyé, quels que soient les azimuts de l'écran. Donc ça nous donne, on a donc la colorimétrie, le contraste, la progressivité évidemment et la vue angulaire avec, alors c'est pas une mesure, c'est plus une matrice, on indique également la définition des écrans.
Voilà, ça c'est un peu, on va dire, le béaba d'une bonne qualité d'image, on va dire. Hein.
Exactement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore de mauvaises télés? J'ai l'impression que malgré tout, le niveau technique... des téléviseurs a nettement progressé ces dernières années, Lionel.
Oui, on a encore une bonne dynamique hein, de produits à une étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc, ça existe encore des produits à une étoile, mais le produit de une étoile d'aujourd'hui valait peut-être 3 ou 4 étoiles il y a peut-être 8-9 ans. Ça a vraiment évolué, dans le bon sens du terme, pour l'utilisateur. Je fais un petit retour en arrière. C'est vrai que si on se projette 6-10 ans en arrière, on parle encore d'écran incurvé, de plasma, de 3D. Là, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça.
Non, il y a des technologies qui sont sorties, en fait,
complètement
qui n'existent
sorties.
Plus.
Là, principalement, aujourd'hui, il y a deux technologies. Enfin, ce n'est pas principalement, il n'y a que ces deux technologies, LCD et OLED. C'est ces deux technologies-là qui font vraiment tout le marché au niveau
technologique. Avec des itérations, des petites...
Bah, par exemple, le LCD. Dans le LCD, donc, je rappelle rapidement, c'est un écran avec un rétroéclairage. Donc, ça demande une certaine
épaisseur.
Donc, il
y a des petites loupiottes qui sont incrustées dans l'écran et qui allument en fait une dalle LCD.
Oui, mais avec plusieurs strates. C'est-à-dire que quand tu dis les petites loupiottes, il y a la technologie LED, mais ça vient même du fluo. Avant, c'était des néons qui étaient à l'arrière, qui donnaient de la lumière, donc une lumière qui était la lumière globale de tout l'écran, et ensuite certains filtres polarisants qui ensuite passaient au travers d'un écran LCD qui polarisait ou pas, et donc ils affichaient les rouges, verts, bleus pour permettre d'avoir l'image. Donc ça, c'est le rétroéclairage. Et le QLED, qui a été réalisé par Samsung, rajoute une strate en plus, qui est une espèce de filtre coloré qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus riches. D'accord. Et ensuite, on a la partie OLED. Et là, la partie OLED, c'est vraiment... Enfin, allez, ça fait 5-6 ans que maintenant, c'est rentré dans le marché, dans la production, tout le monde s'y met. Et vraiment, c'est des très très bons produits. Plus chers, mais très très bons produits.
C'est la meilleure technologie aujourd'hui?
Difficile à dire parce qu'il a aussi des défauts. En fait, l'OLED, c'est génial parce que c'est très fin. On n'a pas besoin de toutes ces strates pour pouvoir polariser la lumière et donner de l'image.
Parce que chaque pixel, en fait, s'auto-allume, en quelque sorte.
Exactement.
C'est ça, l'OLED.
C'est...
Hein.
Une sollicitation électrique qui fait qu'il s'allume.
C'est à peu près la même technologie qu'on a sur la plupart des téléphones aujourd'hui, hein, les écrans OLED.
Exactement. C'est un truc qui, en plus, est tout petit, qui ne prend pas de place. Et justement, comme on veut des smartphones très fins, c'est ce qu'on souhaite aussi sur les ordinateurs. D'ailleurs, on a aussi des ordinateurs avec des écrans OLED. Mais ils ont un petit défaut, les OLED, c'est en termes de luminosité. Comme c'est de l'organique, c'est du chimique, si jamais j'allume mon petit élément beaucoup trop longtemps et trop, de façon trop lumineuse, il brûle. En fait, il brûle. Et c'est ce qui génère du marquage pour les dalles OLED. Donc, en termes de luminosité, de pic de luminosité, on ne fera pas
mieux.
Donc, ça
meurt, quoi. Le pixel meurt, il se grille,
en quelque sorte. Il grille. D'accord. Exactement. On dit souvent, vulgairement, on dit il crame, mais c'est vraiment du marquage que ça provoque
ça,
à cause de ça.
Cuit. Enfin, c'est cuit. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que là, on peut la télé...
Il faut la réparer. Maintenant, il faut trouver le réparateur. On peut la réparer. Maintenant, c'est compliqué d'aller aux composants. Ouais. C'est vraiment compliqué là-dessus. Mais pour éviter ça, alors pour éviter le défaut du manque de luminosité, il y a une itération du OLED qui s'appelle le WOLED. En fait, au lieu d'avoir des sous-pixels rouge, vert, bleu, on a rouge, vert, bleu et blanc. Et le blanc vient rehausser le manque de luminosité sur l'image globale.
Donc mais ça même, fatigue moins les pixels de couleur, en fait,
bah,
c'est ça,
ça non, ça les fatigue tout autant, mais on a plus de luminosité puisque ça s'additionne.
D'accord.
Par contre... la fatigue, en tout cas le système de marquage, certains constructeurs ont trouvé la parade en mettant des protections de dalles, ce qui fait que là où sur un écran LCD on va avoir du 600, du 700 candela quand on va le mesurer, sur du OLED on va avoir le 600, 700 candela et il va descendre jusqu'à à la rigueur s'éteindre comme un écran de veille d'ordinateur pour justement éviter que le sous-élément
d'accord.
soit en panne.
Donc il y a comme une sonde de température, c'est ça ? Comment ça marche en fait ?
C'est plutôt...
Il estime que, voilà, là, il faut qu'il refroidisse en quelque
exactement.
Sorte.
Exactement.
D'accord.
Et donc vous avez des marques parce qu'on a toujours un logo d'une chaîne, etc., qui, de manière presque invisible, quasi invisible, va décaler le logo comme ça. Donc on peut se rendre compte sur certains écrans, le logo BFM ou
RMC ou
Tech&Co, etc., on va le voir se décaler un petit peu comme ça,
ah ouais.
pour un peu à l'image de ce que faisait un économiseur d'écran. C'est-à-dire vraiment de...
Oui, de ne pas marquer en fait la dalle.
Faire reposer les LED, les éléments, pour ensuite les réactiver ensuite. Et c'est pour ça que la luminosité, c'est un élément qui est important pour l'industrie de l'OLED pour arriver à compenser ce retard-là. Et les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, type micro-LED par exemple, pourrait peut-être arriver à régler les choses. Parce qu'en fait, ce n'est pas du OLED, c'est du LED, mais très très fin, très petit. Et puisque c'est du LED, il n'y a pas le même système, le même défaut de marquage.
Lionel, comment choisir cet élément cette fin d'année 2022 ? Alors, c'est une question ouverte, un peu complexe quand même, hein, malgré tout, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le budget, il y a le design, il y a la distance à laquelle on va être de la télé.
La taille.
La taille. Mais non, mais
où est-ce qu'on habite ?
C'est vrai, c'est tout bête, hein, mais franchement... On arrive dans une Fnac ou un Darty ou n'importe où, on se retrouve avec des télés, mais on perd la notion en fait de la distance, etc. Il y a des petits tips à savoir là-dessus ou pas ?
Oui, alors premièrement, la distance, elle est hyper importante. Avant, c'était l'argument phare quand on allait en magasin pour n'importe quel vendeur et n'importe quel client. C'était, on me dit, un 60 pouces, il faut que je sois à plus de 2 mètres de recul, sinon je vois les pixels. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de la définition. Il y a 10 ans, on était encore sur du 720p, du 1080, enfin c'était du Full HD. Là aujourd'hui, le standard, c'est 4K. C'est donc 4 fois plus que le Full HD. Et le fait que les points soient beaucoup plus petits, donc beaucoup plus denses, même à 1m50,
on ne les voit pas.
On voit pas.
Donc après, il faut que la source soit de bonne qualité. Voilà.
Mais même avec l'upscale, j'allais venir, si jamais on regarde la télévision qui, elle, est diffusée, on va dire, en Full HD, les télés 4K vont quand même diffuser sur tous ces 4K-là.
Oui,
mais après, ça ferait de l'upscale, donc c'est pas... L'upscale, pour rappel, c'est une interprétation de la part du téléviseur des 4 pixels qui entourent un pixel.
Oui.
C'est-à-dire que si j'affiche un point noir, si j'attends ce même point noir sur 4 points... l'écran va me générer un point noir un peu clair.
C'est-à-dire qu'on va améliorer la définition par des algorithmes, en fait, de la qualité de l'image.
Exactement.
Voilà.
Et donc, cette première question, c'est vraiment quelle taille d'écran je souhaite chez moi. Ça, c'est à la rigueur le premier critère qu'on peut avoir en magasin quand on est client et qu'on...
Donc, en fait, c'est presque indéfini, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que finalement, avec 2 mètres de recul, je peux avoir un 70 pouces.
Oui, exactement.
Sans problème.
Alors, après... bronze. Après, ça fait quand même très
grand.
Près, c'est...
Mais bon, pour tous ceux qui aiment l'immersion,
c'est top.
On parlera peut-être de gaming tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi un paramètre important aujourd'hui.
Mais en fait, c'est ça. Plus c'est grand, plus on a cette sensation d'immersion. Après, ça va dépendre des utilisateurs et de la capacité ou de la possibilité des gens chez eux.
Bien sûr. Faut-il avoir un mur assez grand pour afficher une télé de 70 pouces ?
Exactement. Et encore une fois, il y a 6-7 ans, on était plus autour des 48, des 50, des 55 pouces, un peu de 60 pouces, mais très peu. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, non, c'est en train de monter complètement en taille. On a eu, il y a quelques semaines, on a fait une petite performance au labo de la FNAC, on a testé un 93 pouces. C'était la plus grande taille qu'on ait testée parce que au-delà, en fait, ça ne rentre pas dans l'ascenseur. C'est un peu compliqué, donc ça faisait un petit peu bêtisier, mais on a filmé ça, c'était assez drôle. Mais on a pu tester, l'appareil de mesure nous permet de mesurer des écrans de toute taille. 93 pouces, ça fait quand même déjà assez grand, mais on en vend aussi, même des 93 pouces.
Bien sûr.
Donc la taille est vraiment montée, et donc le 60-65 pouces, c'est quelque chose qui est maintenant pour plein de gens totalement envisageable. Donc première question, la taille de l'écran. Ça, c'est la première. Tu parlais du design. Nous, au laboratoire, on ne teste pas le design. On ne va pas dire...
Non, c'est totalement subjectif.
Exactement. Donc ça, il faut aller voir en magasin, voir les photos du produit pour se dire, tiens, je préfère ça par rapport à d'autres. Mais il y a quand même des technos, enfin pas des technos, mais des marques qui ont vraiment avancé là-dessus. Je pense, pour les nommer, à Samsung avec les The Frame. Tu en as sûrement déjà vu quelque part.
Qui ressemble à un tableau, en quelque sorte. Hein, avec un cadre.
Exactement. Ils ont vraiment... Autour. Affiner complètement le cadre, on dirait un tableau, ça reste comme ça allumé, enfin c'est assez joli, et ça c'est du design, c'est pas de la performance télé pure. Ensuite, la question que la personne doit se poser, c'est quand même, qu'est-ce que je regarde le plus, ou sur quoi je suis plus attentif? Est-ce que j'aime bien voir des films, des documentaires? Est-ce que c'est plutôt du sport, match de foot par exemple? Est-ce que c'est pour connecter ma console dessus? Donc toutes ces questions-là, elles sont importantes au préalable avant d'acheter le télé. Ensuite, alors si on va sur la partie technologique, LCD ou OLED, il y a une grande différence entre ces deux technos pour choisir. Est-ce que je choisis LCD ou OLED? La vue angulaire, ça c'est la chose la plus notable. Sur un écran LCD lié au rétroéclairage et aux différents filtres, si on se tourne à 45 degrés pour regarder l'image, si on est plusieurs devant un écran, on va avoir une perte de lumière, voire même des modifications de couleur.
D'accord.
Sur l'OLED, pas du tout.
C'est-à-dire que l'OLED, j'ai la même qualité que je sois en face ou vraiment sur le côté.
Jusqu'à, on va perdre 50% de lumière à 60-70 degrés.
Oui, mais bon, après on ne voit plus rien de toute façon, ça n'a pas de sens.
Mais exactement, on est dans un angle comme ça, mais si on est à plusieurs à regarder un match,
c'est quand même malgré génial. Tout, c'est moins visible sur la technologie OLED.
Exactement.
Tu as parlé de Samsung. Quels sont les ténors aussi de la télévision aujourd'hui?
Les best ever produits aujourd'hui qu'on a testé au labo FNAC, c'est un LG OLED, le 65B26LA, qui est un 65 pouces, et aussi un Sony XR55 A90J, qui lui est à 55 pouces. C'est deux produits qui sont absolument excellents en colorimétrie, en contraste, en progressivité, en vue angulaire évidemment. Alors, c'est deux produits OLED, voilà.
D'accord. Le QD OLED, un mot là-dessus, parce qu'on voit que Samsung commence à accélérer cette technologie. C'est intéressant ou pas?
Complètement. Même dans les résultats, ça se voit tout de suite. Le QD OLED, très vulgairement, enfin je vais vraiment essayer de vulgariser au maximum cette technologie, c'est du OLED. Donc c'est toujours des éléments auto-émissifs, donc toujours aussi fins, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Samsung a rajouté un filtre où en fait il y a une espèce de backlight, un espèce de rétroéclairage entièrement composé d'OLED bleu. Puis ensuite on a une petite strate de rouge qui va générer du rouge et du vert.
D'accord.
Donc ça part du bleu, ça transforme du rouge du vert et le bleu évidemment du rétroéclairage reste là, ce qui fait que ça permet des couleurs plus riches. Et ça permet une plus grande luminosité parce qu'en fait, on contrôle mieux la lumière bleue qui est plus forte.
D'accord.
De base. Donc, on n'a pas cette lumière rouge-verte qui est un peu plus...
Et on arrive à monter en nits, ces fameux nits,
oui,
c'est ça?
Oui, moi, je ne parle pas en nits. D'accord. Je parle en candela.
Et voilà. Là, on rentre dans le... Non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup cette unité de mesure.
En France, l'unité de mesure qui fait référence, c'est le candela.
C'est le candela.
Le candela qui exprime donc le niveau de lumière envoyé sur une surface de 1 mètre carré. Un candela égale... une bougie sur un mètre carré, pour simplifier les choses. Et là, on obtient sur le QD OLED, sur les éléments, on obtient jusqu'à 300 candélas dessus sans aucun problème.
Alors, quelles sont les autres télés qui méritent le détour au labo FNAC?
Une télé qui n'est pas la meilleure de toutes les télés, mais qui a vraiment performé, je pense au Samsung OLED S95B. Tu parlais à l'instant des candélas. C'est l'écran le plus lumineux que nous ayons testé au labo, parmi les télés qui ont une uniformité à 10 sur 10. Pourquoi je précise ça
QLED.
Rapidement
QLED ou
OLED
OLED.
OLED.
QD OLED alors donc.
C'est un QD OLED exactement. D'accord. Pourquoi je précise l'uniformité
Samsung.
Pourquoi je précise l'uniformité? Parce qu'on voit beaucoup de mesures qui sont réalisées sur des points précis d'un écran. Oh, il fait 1000 candélas, il fait 500 candélas, etc. Mais c'est sûr, si on a une image qui n'est pas uniforme, on va avoir des espèces d'ola ou d'assombrissement, d'halo, pardon, pas d'ola, d'halo et d'assombrissement sur des coins de l'écran. Et ça, c'est donc un manque d'uniformité lié à une mauvaise maîtrise industrielle quand ils ont conçu le produit. Et ça, on l'évalue, évidemment, au labo de la FNAC. Et donc, on a regardé tous les produits qui ont eu 10 sur 10 en uniformité. Et celui-là, le S95B, est l'écran le plus lumineux. Et c'est pourtant un OLED, mais un QD OLED. Ensuite, ceux qui ont vraiment performé, je pense à un écran à moins de 500 euros que je trouve pas mal du tout. C'est un Hisense 43A7GQ qui a obtenu que 4 étoiles, mais il est à 429 euros. Et c'est un produit,
rapport qualité-prix.
43 pouces,
43
celui-là.
Pouces. D'accord. Et
ensuite, on a aussi une marque que j'aime plutôt bien, les Philips. On a testé un Philips 75 PUS 880712, et lui, c'est en termes de fidélité colorimétrique qu'il est au-dessus des autres. C'est-à-dire que si je veux voir des belles images, des documentaires avec des ciels qui soient naturels, qui soient pas complètement qui partent dans tous les sens, celui-là, c'est un bon produit.
Voilà, Ambilight, bien sûr.
Et évidemment, on ne le teste pas, l'Ambilight, mais c'est à voir. Et
après,
c'est remarquable.
Il y a des gens qui aiment pas, mais c'est vrai que la plupart de... Enfin, c'est ce que me disait le porte-parole de Philips. En général, quand tu as goûté à l'Ambilight, c'est difficile de s'en séparer après. Juste un mot, il nous reste quelques instants. On voit que on a des télé 8K qui arrivent.
Oui.
Est-ce que c'est pertinent d'acheter ça? On voit aussi, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, il y a cette news concernant peut-être l'interdiction de vendre des télé 8K parce que ça consomme plus d'électricité. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas sincèrement, Lionel?
Le 8K, c'est pas un gadget, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent vraiment avoir le haut de gamme et qui ont des machines qui peuvent générer du 8K. Donc c'est quand même un marché de niche aujourd'hui. Pour monsieur tout le monde et pour ceux qui regardent la télé ou les services de SVOD, ça n'a pas grand intérêt. Ça crée de l'upscaling à 8K, donc on passe du 4K au 8K, donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, ça reste un peu niche, donc c'est très très particulier. Donc je dirais aux gens, ne sautez pas dessus tout de suite, attendez encore un petit peu. Concernant ce que tu indiquais de peut-être l'interdiction du 8K,
Lié à la consommation électrique. Parce que le 8K, tiens, ce sera peut-être la dernière question que je te poserai aussi. Le 8K consomme plus d'électricité?
On ne l'a pas mesuré, mais ce qu'on sait, c'est que par contre, plus on a de pixels ou de sous-éléments à adresser, plus la carte mère et donc les circuits intégrés ont besoin d'adresser de la puissance de calcul pour que chaque élément soit adressé. Donc ça peut générer plus de puissance. Mais je pense que c'est plus la dalle de l'écran, avec surtout du micro LED ou du OLED derrière, qui elle peut générer plus de consommation d'énergie. Donc on n'a pas du tout remarqué ou mesuré ça. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour contrôler, voir ce qui est annoncé et ce qu'on peut indiquer. Non,
parce que c'est un sujet d'actualité. Une télé, d'une manière générale, ça consomme beaucoup d'électricité ou
ça
pas?
Ça dépend de ce qu'on regarde. En fait, ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde sur un OLED par exemple, si on regarde des images très sombres, pas dans le noir mais très très sombres, vu que les OLED s'éteignent complètement, ça consomme absolument pas d'énergie.
D'accord. Donc ça, en fait, la consommation électrique se module par rapport à la luminosité qui est affichée.
Complètement.
D'accord.
Et selon ces réglages aussi. Si je choisis dans mes profils des profils d'image dynamiques ou quelque chose de très très éclatant et très lumineux, je vais consommer plus d'énergie.
D'accord.
Également.
Donc si je baisse la luminosité et le contraste de ma télé, je consommerai un petit peu moins d'électricité.
Exactement. Alors théoriquement, après il faut voir peut-être pour chaque machine, mais si vous baissez la luminosité, c'est la source d'énergie qui consomme le plus sur un écran.
Un point important. Les operating systems, tous les OS qu'il y a sur les télés, on en voit, enfin il y en a beaucoup. Hein. Vous testez ça aussi ou pas?
On ne les teste pas, on les relève parce que, encore une fois, comme l'ergonomie, c'est quelque chose, on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a de plus en plus évidemment d'Android TV, mais on n'a pas que ça, on a Tizen, on a WebOS, etc.
Alors, Android TV sur la plupart des marques, WebOS c'est LG,
Tizen
c'est Samsung.
Hisense
a aussi son propre operating system, je crois.
Oui, je ne me rappelle plus de son OS, mais en fait, on se rend compte que de toute façon, tous les OS se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a une espèce de convergence, peut-être dans les directeurs artistiques ou dans les créatifs, on a l'impression que c'est tous
de dépouiller.
Oui, et en fait, et là il y a un vrai sujet par rapport aux constructeurs télé, c'est qui utilise ces OS. Si j'ai ma box Free, SFR, ou Orange, j'utilise mon HDMI de ma box. Donc tous mes services de streaming, Netflix ou Disney+, ou peu importe, je vais plus passer par ma box que par les applications intégrées sur le l'OS. Donc, je sais que les marques travaillent beaucoup pour intégrer directement l'opérateur dans leur télé.
Oui, box en fait, exactement. Via une appli. C'est le cas de Samsung qui fait ça avec Orange, je crois.
Bouygues a fait ça aussi. Et ce qui fait qu'on a toujours un boîtier opérateur qui transforme la fibre optique ou le réseau en réseau local chez soi, mais on n'a plus le lecteur multimédia qui accompagnait ce module-là.
La box télé.
Exactement, pour aller directement sur la télé. Et tout se fait à partir de la télé. Donc ça, c'est un vrai enjeu industriel aussi pour les constructeurs qui, évidemment, voudraient que chaque personne reste dans l'écosystème de sa marque.
En effet.
Mais on ne juge pas ça.
C'est un sujet, voilà. Ouais. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions. Voilà, c'est 20 minutes, plus de 20 minutes qui sont passées à la vitesse de l'éclair pour essayer de vous conseiller, de vous donner, faire un point à date sur les technologies télé et comment vous aider à choisir en cette fin d'année. Merci beaucoup Lionel Merci. Costa, responsable du développement du Labo Fnac. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça ? Ou bientôt ?
Bientôt pour évoquer
d'autres sujets et d'autres comparatifs. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Les Labo Weeks qui commencent aussi en collaboration d'ailleurs avec Fnac Darty, que vous pourrez retrouver sur la chaîne Tech & Co avec énormément de programmes. On vous conseille à l'approche des fêtes de fin d'année pour choisir tous vos produits high-tech. Allez sur l'univers Tech & Co, vous retrouverez tout ça. Et puis aussi, chose cool, vous allez pouvoir voter pour vos produits high-tech préférés. Avec, pour chaque catégorie, si vous votez, si vous êtes tiré au sort, un bon d'achat de 200 euros que vous pourrez gagner et que vous pourrez dépenser dans toutes les Fnac Darty. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.